French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Je suis né homosexuel, gay. Et c'était pas simple dans les années 90, en Picardie, dans le fin fond de l'Oise, près de la Somme, grandir dans cet environnement, dans un environnement assez macho, un papa agriculteur, assez... super gentil, super sympa, mais tu sais, un peu brut de décoffrage. Et je ne me suis jamais vraiment senti à ma place. Je voulais toujours sortir de mon village. C'était toujours, tu sais, une sorte de fuite en avant pour toujours essayer de te fondre dans la masse et ne plus être le petit garçon efféminé du village. Je suis arrivé le jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras en Australie, c'est la Gay Pride en fait. C'était quelque chose de fou. Enfin, tu sors avec tes valises et t'arrives dans le centre de la ville et t'as des drapeaux gays partout. Et ça, c'est comme un gros welcome. Enfin, tu vois, welcome Mathieu à Sydney. Viens comme tu es. On est là pour, pour te recevoir. Ouais.
Mathieu a grandi dans le nord de la France, en Pluicardie, comme il l'appelle. Fils d'agriculteur vivant dans une famille aimante, si Mathieu qualifie son enfance d'heureuse, il a aussi rapidement eu l'intuition de ne pas être à sa place et que sa vie l'attendait ailleurs. Rêvant initialement de s'installer à Paris, c'est finalement le jour de la marche des fiertés australiennes qu'il s'installe à Sydney, en Australie. Une véritable révélation, une prise de conscience. Ici, Mathieu se sent libre, enfin. Libre d'être lui et d'aimer celui qui fera battre son cœur sans se soucier des autres. Sauf que Gerardo, le jeune étudiant mexicain qui s'empare littéralement de son cœur, ne se plaît pas en Australie. Alors, nationalité en poche, Mathieu fait de nouveau le pari d'abandonner son Australie adorée afin de suivre son désormais mari pour s'installer dans un nouveau pays, le Mexique. Un épisode empreint de liberté et de détermination. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur Andrely et vous écoutez French Expat, un podcast French Morning.
Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est l'heure de pointe. Il est 20h. Et maintenant, l'avenue est complètement bouchée. Les gens rentrent chez eux. Après avoir travaillé à Mexico. Mexico est une ville tentaculaire. Et très mal desservi par les transports publics. Il faut dire aussi que Mexico se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude, 2200 mètres d'altitude. Et c'est assez difficile en fait de construire des transports type métro. La ville de Mexico est aussi construite sur un lac qui a été asséché par l'homme. Donc le terrain est assez movible. Et la ville s'enfonce d'à peu près entre 10 et 15 cm par an, je crois. Donc voilà pour l'info sympa. Salut, moi c'est Mathieu, j'ai 35 ans et je vis à l'étranger depuis 10 ans maintenant. J'ai vécu 6 ans à Sydney, Australie. Et ça fait maintenant 4 ans, 4 ans et demi que je suis à Mexico, au Mexique. Je suis marié depuis 2 ans maintenant, donc mariage 2020, avec mon épouse Gerardo, qui est mexicain, qui m'a un peu forcé à venir au Mexique. Et dans mes temps libres, écoute, j'adore voyager, j'adore découvrir de nouvelles cultures, et j'adore en plus d'écouter des podcasts. Je suis fan de la course à pied. J'adore prendre soin de moi. J'adore aller me balader, prendre des cafés. Ça, c'est plus un côté australien. Le café, la culture du café australienne est assez bonne. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vis dans un pays qui est producteur de café, le Mexique. Mais la culture du café en Australie, il y a une sorte de fanatisme sur la manière de le préparer, tu vois. Donc, tout le monde a la meilleure cafetière, tout le monde a la meilleure façon de le faire. Ils cherchent le grain. Et en fait, après, en déménageant, j'ai appris que justement, les Australiens et en général, les gens qui cherchent à acheter le café, pues, ils viennent chercher les meilleurs grains et les exportent. Donc, le café qui reste au Mexique,
ouais,
c'est le... Ce sont les restes. Voilà. Je suis Picard. Donc la Picardie, pour les plus jeunes d'entre nous, c'est cette région qui maintenant s'appelle les Hauts-de-France. Ça n'existe plus. Ouais, donc pour moi, c'est toujours la Picardie dans l'Oise. Mais donc, petit gamin de Picardie, papa agriculteur, maman nounou, assistante maternelle. Un petit village de 2000 âmes.
Les petits villages français qui font rêver quand on est parti.
Qui font pas trop rêver, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'on appelle la Picardie la pluie-cardie pour le temps qu'il fait. C'est une partie qui a été assez détruite durant les deux guerres, bon, principalement durant la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont des villages qui ont été reconstruits assez gris, assez en briques rouges. Et... je sais pas, j'ai une vision de mon enfance assez joyeuse, mais grise, avec toujours des envies de toujours plus, en fait. Je suis né homosexuel, gay, et c'était pas simple dans les années 90, en Picardie, dans le fin fond de l'Oise, près de la Somme, grandir dans cet environnement, dans un environnement assez macho, un papa agriculteur assez... super gentil, super sympa, mais tu sais, un peu brut de décoffrage. Et donc, du coup, je ne me suis toujours pas senti à ma place. Je ne me suis jamais vraiment senti à ma place. Je voulais toujours sortir de mon village pour ensuite aller à la ville où il avait mon lycée. Après, c'était à Amiens, la capitale de la Picardie. Ensuite, c'était toujours, tu sais, une sorte de fuite en avant. Pour toujours essayer de te sentir, de te fondre un peu et de te fondre dans la masse et ne plus être le petit garçon efféminé du village.
Ouais, tu voulais plus être l'exception.
Non, je veux plus être l'exception. Je voulais vraiment être avec mes pères, en fait. J'avais un rêve, c'était d'aller à Paris. Ça, c'était mon rêve quand j'étais petit, toujours. Je disais, non, mais c'est pas possible, je suis pas... né pour être ici, en fait. Je voulais aller à Paris. Et après, au fur et à mesure, ça s'est un peu élargi. C'est à côté, mais ça semble tellement loin. Enfin, les distances, quand t'as moins de 18 ans et que t'as pas le permis de conduire, que t'as un père qui lui, ou une mère qui a un rayon de 5-10 km autour de la maison, au final, j'avais toute ma famille aussi qui était là, la famille de mon père, donc tu sors pas, en fait. Tu sors peu. Donc au final, j'ai fait une terminale ES, donc sciences économiques et sociales. Je me suis dirigé vers une licence en économie.
Si en commençant ses études d'économie à Amiens, la capitale de feu, la Picardie, Mathieu s'imagine à faire un Erasmus quelque part en Europe, à découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais ce que cette licence en économie va lui offrir, c'est Paris, son rêve d'enfance.
Mais donc du coup, à partir de ma licence d'économie, j'ai eu l'occasion de faire un master à Paris, Panthéon Assas. Et c'est là donc, où je me suis dit, il faut que je commence à voyager, il faut que je commence à parler anglais, parler beaucoup plus anglais. J'ai commencé par un séjour pour apprendre l'anglais à San Francisco.
Vous connaissez l'expression « un mal pour un bien » ? Bah, c'est un peu ce qui s'est passé ici. Mathieu, en fait, n'a pas validé un de ses semestres de master. Il doit donc redoubler, ce qui lui laisse finalement une bonne partie de l'année de libre. Et c'est du temps qu'il décide de mettre à profit pour perfectionner son anglais. Et heureusement, car sans ce séjour, je peux vous garantir que Mathieu ne nous parlerait sûrement pas depuis Mexico aujourd'hui.
Mon redoublement, en fait, m'a permis de me dégager un semestre. Et j'en ai profité pour partir à San Francisco. Sur le moment, tu penses que tu rates quelque chose. Tu te dis, ah mince, je rate mes études, ma vie, mon côté pro. Mais au final, ça te permet de faire d'autres choses, non? Et dans mon cas, de partir étudier l'anglais à San Francisco, c'était fait pour moi, c'était ce que j'attendais depuis tout petit. J'ai pas eu peur de partir. Je partais aussi dans un cadre assez bien organisé, où j'avais ma famille d'accueil qui allait me recevoir, l'école qui était prévue le mardi matin, je me rappelle. Et une fois arrivé, j'ai eu l'impression d'arriver dans les films et les séries que je voyais depuis tout petit. En fait, tu sais, t'as l'impression de te plonger dans le petit écran et de découvrir un monde que t'as l'impression de connaître, mais qu'en fait, tu connais pas. La première image que j'ai en arrivant, en sortant de l'aéroport, c'est quand tu sors de l'aéroport et tu es sur l'autoroute et tu commences à voir la skyline, la vue de San Francisco au loin, et tu dis « Ah, ça y est, ça c'est les États-Unis. J'y suis. » À partir de là, en fait, j'ai eu la sensation aussi, après quelques jours, d'être chez moi, de me sentir chez moi.
Ah ouais.
Et aussi, cette sensation d'être étranger, donc de savoir que tu parles pas, que tu comprends la langue, mais que tu la parles pas aussi bien que quelqu'un qui est natif du pays. Cette sensation d'être différent et d'être regardé comme cette chose intéressante qui vient aussi d'un autre monde, tu vois. Et cette sensation-là où les gens t'arrêtent et disent « Ah, mais ton accent, attends, ça vient d'où ?» Alors que c'est peut-être la personne du Starbucks ou la personne de Abercrombie & Fitch, parce qu'à l'époque, en 2010, c'était
Abercrombie. Ah bah oui, c'était que ça.
Exactement. Et que tout le monde te parle, ah, comment ça va? Ah non, mais attends, ton accent, ça vient d'où? Et tu vois, on te pose des questions et tu as cette sensation d'être intéressant sans avoir rien fait. En fait, tu apportes juste toi avec tous tes bagages, avec ton histoire, avec ta culture, et ça intéresse quelqu'un d'autre. Et en fait, cette sensation d'abord de la ville, d'être très accueillante, très jolie, et de te sentir chez toi, et en plus d'être étranger dans cette ville et d'être intéressant par ce fait, juste là, d'être comme un étranger, je me suis dit, non, ça, c'est ça en fait, c'est ça, c'est pour moi. À partir de là, il me reste environ une année d'études, mon master 2 à faire, et ensuite c'est terminé. Donc je fais mon master 2 toujours sur Paris, et à la fin de cette année, on a un stage obligatoire à faire en entreprise, dans une banque. Donc je l'ai fait dans une grande banque française. Et là, c'est là en fait, je me suis dit, je vais me servir de ce tremplin, de faire mes 6 mois de stage à BNP Paribas. Et je me suis dit, je vais me servir de cette occasion d'être à l'intérieur, bah, pour envoyer des emails, pour chercher un VIE et pour partir travailler aux États-Unis. J'ai eu des entretiens pour les États-Unis et pour Londres qui ne se sont pas concrétisés. J'en ai parlé à ma chef et qui m'a dit, écoute, on a peut-être une équipe à Sydney qui fait la même chose que ce que tu fais en ce moment. Je vais demander et je t'en parle dans quelques semaines. Et entre-temps, j'ai une offre de CDI dans cette même équipe que j'ai refusée parce que je me suis dit non, mais c'est pas ça, c'est pas ce que je veux. C'est pas à 23, 24 ans avoir un CDI et commencer une vie sur Paris. J'ai vraiment besoin de partir. Il faut que j'y aille. Et au final, voilà, donc ma chef m'a aidé à avoir ce VIE. J'ai eu un entretien et voilà, et j'ai été pris tout de suite. Et ensuite, les démarches se sont accélérées et 2 mois après, j'étais à Sydney. Tout le monde savait que je voulais partir. J'avais même eu, tu sais, j'avais eu des rencontres un peu amoureuses, mais pas vraiment importantes à l'époque. Et je leur disais, écoute, on va pas s'engager vraiment trop dans la relation parce que je sais que je partirai bientôt. Je sais que dans 6 mois, dans 1 an, je pars. Donc je préfère te le dire maintenant. Pour mes parents étaient au courant, mes parents le savaient, mais pas trop d'inquiétude sur le moment de leur côté parce que c'est pas concret en fait. Et au moment où on m'annonçait, ça y est, tu peux partir à Sydney. Déjà, moi, je me suis dit, ah, attends, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce que Sydney, c'est quand même l'autre bout du monde. Mon rêve, au final, c'était, ça n'a jamais été l'Australie. Qu'est-ce que je vais aller faire en Australie? Enfin, je sais qu'à l'époque, c'était en fin 2011, début 2012. L'Australie, c'était un peu l'Eldorado du moment. Tu sais, tout le monde partait un peu en working holiday visa. Il y avait des reportages, des documentaires sur l'Australie, cet Eldorado. Mais moi, ça ne me faisait pas rêver, en fait. Moi, c'était les États-Unis. Et sentiment qui avait été renforcé par mon expérience à San Francisco. Je me suis dit, c'est loin quand même. Bon, allez, c'est un veilleux de un an. Allez, ça va passer vite. Donc, j'en parle à mes parents. Mes parents contents. Contents pour moi parce qu'ils savaient que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et justement, avant le podcast, j'ai appelé ma mère pour lui demander ce qu'elle avait ressenti parce qu'on n'avait vraiment jamais parlé avant. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as pensé au fait que je parte en Australie? Elle m'a dit, bah, écoute, une grosse inquiétude, bien sûr, comme tous les parents, on ne savait pas, on ne connaissait pas, mais tu nous rassurais beaucoup. Une fois arrivé sur place, on s'appelait, je leur envoyais des photos et ils me voyaient heureux. Donc au final, une inquiétude normale, je pense, pour tous parents qui se manifestaient. Bon, déjà, j'étais sur un petit nuage depuis la prise de la décision de partir. Je me disais, c'est fou ce qui m'arrive, en fait. Mm-hmm. C'est fou le parcours et de toutes les opportunités que tu peux avoir et juste le fait de les prendre et qu'enfin ça se concrétise. J'étais vraiment sur mon petit nuage. Je suis arrivé le jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras en Australie, c'est la Gay Pride, en fait.
Ah! Ah,
et je savais pas. Et c'est pareil, c'était quelque chose de fou. Enfin, tu te sors avec tes valises et t'arrives dans le centre de la ville et t'as des drapeaux gays partout. Mais c'est comme un gros welcome. Enfin, tu vois, welcome Mathieu à Sydney. Viens comme tu es. On est là pour, pour te recevoir. Ouais. C'était assez fou. Et lorsque j'ai marché pour la première fois dans cette parade de Mardi Gras. Et là, je me suis dit, oh, je suis en train de fêter mes un an en Australie. Et en plus, je suis dans la parade, en train de sauter partout, torse nu. Et tout le monde te dit, joyeux Mardi Gras, happy Mardi Gras. Et te dit, t'es vraiment super. Enfin, tu vois, t'as une sorte d'appréciation. On te dit, mais c'est super, tu es comme tu es et on t'aime pour ça.
Au final, vous vous en êtes bien rendu compte si vous avez prêté attention à ce que nous raconte Mathieu. Aujourd'hui, il ne nous parle pas d'Australie, mais du Mexique, de la ville de Mexico City, justement. Lui qui était parti juste pour une petite année, voire deux, il est finalement resté 6 ans en Australie. Et comment est-il arrivé du côté du Mexique? Comme souvent, tout tient, en fait, à une rencontre. La rencontre.
Rencontre des temps modernes, rencontre sur Tinder, on swipe right, comme on dit, et ça match, on commence à se parler. Et ce qui est drôle, c'est qu'on commence à se parler en français, parce que lui était fan de la France depuis très longtemps. Mais on s'est parlé pendant 4 mois avant de se rencontrer. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment discuté en profondeur durant ces 4 mois, et on avait l'impression de se connaître quand on s'est rencontré, ouais, la première rencontre. On se rend compte justement sur l'avenue principale du quartier gay de Sydney pour aller boire un verre. Et je le vois et tout de suite je me dis, waouh, il est super bien sapé ce mec, il est beau. Tu vois, il avait des super beaux vêtements, très bonne première impression. Donc on allait passer ce premier rendez-vous dans un bar où lui justement me racontait qu'il détestait l'Australie. Il déteste l'Australie. Alors que moi, tu vois, c'est tout l'inverse. Donc on est en 2016, ça fait 4 ans que je suis là. Moi, je suis toujours aussi amoureux de l'Australie qu'avant. Peut-être pas autant qu'avant, mais voilà, enfin, c'est mon pays d'adoption. Et lui, non, me parle pendant 2 heures qu'il... Ah, ça y est, il faut qu'ils partent, il en a marre. De toute façon, les Australiens, ils sont pas accueillants avec lui. Et là, tu vois, je me dis, mais c'est fou. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette même J'ai pas du tout cette même expérience de l'Australie. Et après, c'est pas pareil. Je pense que l'Australie est un pays assez raciste. Il y a un côté assez raciste, alors que tu vois, il y a un Australien sur trois qui est né à l'étranger, en fait. Il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup d'Indiens, bien sûr, beaucoup d'Anglais, d'Irlandais. Ça reste un pays assez raciste, en fait. Lui avait été le premier Mexicain dans sa promo. En fait, le premier étranger à faire NIDA, qui est l'école d'art à Sydney, en Australie. Et du coup, comme il avait subi du bullying, tu vois, donc c'est pour ça, lui, il avait une expérience un peu différente. Voilà, donc on parle de ça, on n'accroche pas sur l'Australie, mais sur tout le reste. Donc du coup, lui, sur son amour de la France, parlant français. Et voilà, je crois qu'on en reste là sur le coup. Tu vois, même pas un petit bisou, rien. On en reste là, et avec une grande envie de se revoir. Et je me souviens que la deuxième fois que je l'ai vu, c'est un jour où j'étais pas allé travailler. J'ai pris un sick day, comme on dit en Australie, un congé maladie. Et je suis allé le voir, et on a passé là toute la journée ensemble, en fait. Donc c'était pas vraiment un sick day, mais voilà. Ça, c'était la fois où on s'est mis ensemble. Ouais, on s'est vraiment mis ensemble.
C'est bien joli tout ceci, mais Mathieu, lui, il n'est plus envieux. Après plus de 5 ans passés sur Sydney, bah en fait, il se voit bien faire sa vie en Australie.
Et à la fin de ce VIE, ma chef me dit « Écoute, Mathieu, merci beaucoup pour ton VIE, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir te garder, il n'y a pas de place dans l'équipe. On aurait beaucoup aimé, mais voilà. » Et je dis « Ça y est, c'est la fin, quoi. » Voilà, c'était deux années un peu entre de parenthèses, de la France, mais il est temps de retourner en France. Mais tu sais, tous les jours durant, pas tous les jours, mais très souvent durant ces deux ans, je me disais, mais est-ce que je peux rester ici ou pas? J'avais toujours ces pensées où tu disais, mais est-ce que l'Australie, est-ce que le fait de vivre à l'étranger, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Sachant qu'en plus ton contrat allait se terminer un jour, je me disais, est-ce que je pourrais tenter de rester après ce VIE? Ou ça vaut pas la peine, il vaut mieux que je rentre. Je sais pas. Après, je pense que c'est beaucoup d'expats se posent la même question. Est-ce que je reste? Parce que c'est difficile, parce que tu te sens seul, parce que tes amis sont en France, ton support émotionnel est en France. Ou est-ce que je reste et je continue de vivre un peu cette parenthèse enchantée? Et au final, je crois qu'une semaine après m'avoir fait ce discours, deux de mes collègues décident de démissionner, et ma chef revient à moi en me disant, bon ben Mathieu, je vais changer un peu mon discours cette fois-ci, mais est-ce que ça t'intéresserait de passer d'un VIE à un contrat local? Et je dis, bah, bien sûr. je signe où? C'est parti. Donc ce contrat local après 2 ans, et en Australie tu peux demander ta résidence permanente au bout de 4 ans, et c'est ce qui s'est passé. Donc au bout de 2 ans de VIE et 2 ans de résidence temporaire, en fait, j'ai fait ma demande de résidence permanente. Et c'est justement à ce moment-là où j'ai rencontré Gérardo.
En fait, toi, t'es dans une démarche, je m'installe ici, je suis heureux, c'est un pays, une ville qui me correspondent bien. Et tu rencontres un mec avec qui ça accroche vachement bien, mais qui se voit pas du tout en Australie.
Exactement, et qui quasiment dès le premier rendez-vous me dit, écoute, moi de toute façon, je termine mon master. Ouais. Et je retourne au Mexique. Il lui restait à peu près un an. Et il avait cette date de toute façon, lui, sur son visa, cette date butoir où qu'il ne pouvait pas étendre. On a essayé, hein, mais qu'il ne pouvait pas. Et moi, avec cette idée aussi en tête, au bout de 5 ans, après 1 an de résidence permanente, tu peux faire ta demande de citoyenneté australienne. Allez, on reste quelques jours de plus, donc j'avais toujours cette date en tête, tu vois, octobre 2017, je peux enfin faire ma demande de nationalité, de citoyenneté australienne. Et en même temps, gérer une relation qui commence, et en sachant depuis le début que de toute façon, Sydney, ce ne serait pas possible. Donc c'était assez intéressant, assez intense, beaucoup de discussions, beaucoup d'incompréhension aussi de la part de mes amis, en me disant, mais non, mais attends, tu nous rebâchais depuis des mois et des mois que t'attendais que ta résidence permanente pour pouvoir changer de boulot, parce qu'il faut aussi savoir que
ta résidence est rattachée à un employeur.
Exactement. Donc j'étais resté 4 ans et demi sans pouvoir vraiment bouger, d'avoir d'évolution professionnelle. Et quand enfin on me donne mes ailes et mon papier en me disant voilà, tu peux changer de boulot, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu peux changer de ville, tu peux aller à Melbourne, tu peux aller où tu veux, tu commences une relation où tu sais en fait que tout ça aura une fin. Mais je me lance quand même. Et au final, ça s'est bien goupillé parce que en sachant que Gerardo pouvait rester jusqu'au 31 mai 2017 à Sydney, et moi, qu'à partir de octobre, je pouvais faire ma demande de citoyenneté, je me suis dit, allez, voilà, je tente, pars au Mexique, je te rejoins, mais laisse-moi rester au moins jusqu'au mois d'octobre pour pouvoir faire ma demande, et après, on voit ce qu'on fait, ouais.
Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble au moment où lui part, du coup ?
Au moment où lui part, ça fait un peu moins d'un an. Un tout petit peu moins d'un an.
Donc vous êtes plutôt sûr de vous, quand même.
On est plutôt sûr de nous, ouais. Ça fait à peu près 9-10 mois qu'on est ensemble. On se dit au moins, on va tenter. Sauf que moi, ça ne me dérange pas de tenter. Je l'ai déjà fait dans ma vie. Mais je préfère tenter en ayant une sorte de filet de sauvetage. Ou, tu vois, ces filets que l'on installe dans les cirques qui peuvent te réceptionner si jamais tu fais une chute. Et moi, c'était la citoyenneté australienne, en fait. Tous mes amis, mes parents me disaient, écoute, ça fait 5 ans que tu es en Australie. Voilà. Gerardo pourra attendre quand même quelques mois si vraiment il t'aime, donc reste. Et donc je suis resté et on commence cette relation à distance qui au final durera 6 mois.
Est-ce que vous vivez la distance de la même manière tous les deux aussi?
Je pense qu'on la vit pas de la même manière parce que lui part et moi je reste dans notre vie en fait, dans ce qu'on a construit. Donc moi au final c'est un peu mon quotidien, ma routine, je continue d'aller au même travail. Pour moi, lui, il part vers l'inconnu. Donc, c'est quelque chose que je ne connais pas, qui ne m'inquiète pas tellement parce qu'il retourne chez sa famille, avec ses amis. Et on avait quand même prévu de se voir un mois après, au mois de juillet, en France et au mois de septembre, au Mexique, pour quand même que lui rencontre ma famille, moi, je rencontre sa famille et que je jette un œil un petit peu sur Mexico et son pays et avant de démissionner. Et hasard de la vie, j'arrive le lendemain d'un terrible tremblement de terre qui s'est passé le 19 septembre 2017. Moi, je suis arrivé le 20 et qui a fait des centaines de morts, qui a détruit de nombreux bâtiments. Et j'arrive dans un Mexico assez ravagé, en fait. Mais j'étais témoin d'une solidarité, d'une entraide entre tous les Mexicains, entre toutes les communautés. J'avais jamais connu ça. Et ça m'a encore plus convaincu de venir, en fait. Tu vois, enfin, c'était super impressionnant. Ça faisait peur. Non, tu te dis, bon, tu pars de Sydney, un pays plat, où il n'y a pas tremblement de terre à la côte ouest, un petit peu du continent américain, où tout le monde sait que, voilà, les tremblements de terre, c'est un peu le... Ça peut être le... un danger, en fait, de ton installation. Mais au-delà de ça, j'ai été séduit, en fait, par la ville, par le pays, par les plages, par sa famille aussi. Donc voilà. Donc en rentrant du Mexique, après des adieux déchirants, c'est là où j'ai vraiment pris la décision que ouais, on allait se lancer. Il était temps. Après 5 ans à Sydney, en Australie, qui est une ville de rêve, mais tu sais, le rêve, des fois, ça peut rester un peu superficiel. C'est une culture très anglo-saxonne, donc très différente de notre culture française. Et même si les gens ce sont les gens les plus adorables du monde, ce sont tes meilleurs amis en moins de 2 secondes, au final, tu crées pas des relations des fois assez forte, assez intense. Et l'Australie, c'est la plage, c'est faire du sport, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. C'était assez difficile de s'intégrer et aussi de s'épanouir vraiment dans la société australienne. Ça reste une société assez anglo-saxonne et assez superficielle, je trouve, au final, en comparaison à maintenant à la France et maintenant au Mexique. On est toujours fin 2017. Fin octobre, en fait, là, je lance ma procédure de naturalisation australienne. Et deux semaines plus tard, je prends mon billet pour le Mexique. On prépare ça depuis le moment où, à partir du moment où j'achète le billet d'avion, par commencer à prendre quelques cours d'espagnol. Moi, j'ai fait allemand LV2, anglais LV1, donc tu vois, pour moi, l'espagnol, je ne m'y étais pas intéressé, on va dire. Et là, obligation de quand même savoir dire trois mots. Donc, on commence à prendre des cours, on actualise un petit peu le CV, Gérard Domed. Et voilà, je commence à chercher. Je commence à chercher du travail depuis l'Australie, mais bon, comme on sait tous, c'est jamais facile de chercher du travail depuis l'étranger. Et la date aussi du départ arrive très rapidement.
Appuyons sur pause juste un instant. Au début de cet épisode, Mathieu nous a raconté avoir quitté sa Picardie natale afin d'être pleinement lui-même. Une première révélation à Paris, en France, puis à Sydney, en Australie, où il aime, que dis-je, il adore sa vie. Alors si la culture mexicaine est forte et tournée autour de la famille, elle est aussi souvent qualifiée d'un peu macho. Est-ce que c'est quelque chose dont Mathieu avait conscience avant de quitter l'Australie? Est-ce que ça l'a effrayé? Est-ce qu'il en a parlé avec Gérardo?
C'est une question bien sûr que je me suis posée, c'est une question qu'on a discuté avec Gérardo et lui a pu répondre à tous mes doutes. Et en fait, le Mexique, oui, la culture mexicaine est une culture assez machiste, assez macho, très catholique. Le Mexique est un des pays les plus catholiques au monde. Qui dit catholique, dit un papa, une maman, un mariage hétérosexuel. Et en fait, la ville de Mexico a autorisé le mariage homosexuel, par exemple, depuis 2009. Donc c'est en fait une entité au sein de la fédération mexicaine assez ouverte. Ici, tu vois en général, bon, les Mexicains en général sont assez démonstratifs au niveau des émotions, ils se touchent assez souvent, ils s'embrassent dans la rue assez facilement, et que ce soit des couples hétérosexuels ou homosexuels, c'est pas choquant de le voir ici à Mexico. Après, c'est pas la même chose. C'est pareil comme dans tous les pays quand tu t'éloignes un petit peu de la ville. Là, et je crois que Mexico est vraiment la seule grande ville où c'est aussi accepté, parce que par exemple, tu as d'autres grandes villes comme Monterrey, qui est plus dans le nord, qui a une culture assez gringo, assez américaine, mais là où tout le monde se cache, par exemple, tu vois, c'est pas autant accepté. Donc, la ville de Mexico est une ville assez ouverte et accueillante à ce niveau-là. Et c'est vraiment à travers les yeux de Gérardo, au début de la relation, lorsqu'on était en Australie, que j'ai appris à connaître sa culture. Parce que Gérardo, c'est quelqu'un de super généreux, et en fait, je crois qu'il a vraiment voulu m'aider à m'insérer déjà dans la culture mexicaine depuis l'Australie. Donc même si moi, j'étais vraiment bien dans ma vie en Australie, il a réussi, en fait, à travers ses yeux, à travers tous ses partages, il a réussi à progressivement me faire, à m'emmener avec lui, en fait. Il a vraiment réussi ça. Et lorsque je suis arrivé, cet amour que j'avais commencé à développer s'est vraiment concrétisé. Je suis tombé amoureux de tout ici. Des gens, d'abord, de la nourriture, de la culture, de l'histoire, de la langue. Aujourd'hui, le Mexique, et c'est pour ça aussi que je ne pense pas encore retourner en France, c'est parce que je suis encore dans cette histoire d'amour avec le Mexique, avec Gérardo, mais avec le Mexique aussi. Petit souvenir qui m'est revenu, quand j'étais en seconde générale, il faut te spécialiser pour la première et la terminale. Tu avais le choix entre l'option littéraire, scientifique ou sciences économiques. Et comme tout m'intéresse, j'avais choisi l'option sciences économiques. Et je me rappelle, ma mère, à l'époque, m'avait ramené les hors-séries du magazine L'Étudiant. les sorceries spéciales métiers et spécialement sur ceux de la banque finance et ceux les métiers des langues. Et au final, tu vois, donc j'ai suivi une route, celle de la banque finance, et au final, j'ai exercé ces métiers de la banque dans des pays étrangers, que ce soit en anglais ou en espagnol, non, en Australie ou au Mexique. Et donc, au final, j'ai réussi à lier mes deux voies, non, les deux choses qui m'attiraient vraiment, j'ai réussi à les faire se croiser. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je pense que je me sens super épanoui. Et je remercie vraiment mes parents de m'avoir aidé tout au long de ma carrière, de mes études. Ils ont vraiment été un soutien très fort pour moi, comme l'a été plus tard Gérardo aussi. Donc voilà, c'est une lettre d'amour pour eux, spécialement, et bien sûr pour les pays qui m'ont accueilli. Moi, j'ai vécu le mariage pour tous depuis l'Australie, non, en 2013. Bon, c'est assez drôle de voir tout ça, non, c'est déchirement entre les Français. L'Australie, il s'est passé exactement la même chose qu'en France. Et l'Australie a autorisé le mariage homosexuel seulement depuis fin 2017. Donc en fait, une des dernières activités que j'ai faites avec mes amis australiens est justement d'aller marcher dans la rue. Je crois que c'était en novembre ou en décembre 2017, juste avant mon départ, juste avant que je parte, où au niveau fédéral, le mariage a été autorisé. Donc tu vois, après le Mexique, après la ville de Mexico.
Voilà donc Mathieu installé à Mexico. Alors c'est quoi cette nouvelle vie? Comment ça se passe?
Je ne sais pas si vous entendez ce sifflet dans la rue. Mais en fait, c'est le vendeur de camote, de patates douces, qui a une sorte de petite carriole et qui passe dans les rues. Et en fait, comme il fait chauffer les patates douces dans une sorte de petite cheminée ambulante, ça fait ce bruit super fort. La chose bien avec Gérardo, c'est que c'est une personne qui me pousse beaucoup, qui me dit, écoute, maintenant que on est au Mexique, on va arrêter de parler en français, je vais te parler en espagnol, et voilà, tu vas partir, ton CV en main, et tu vas aller faire tes démarches, non, je vais pas t'accompagner à l'immigration, je te laisse gérer les choses, et vas-y, quoi. Donc, de ce côté-là, j'ai toujours eu son soutien, tu sais, mais avec une petite pousse en me disant fais-le toi, là, tu vois, on va en voir restaurant, toi demande. Il faut pas que je sois ton support tout le temps, il faut pas que je sois ta canne, il faut que toi tu puisses te débrouiller tout seul si tu vas être si vraiment tu veux trouver du travail, tu veux pouvoir parler espagnol rapidement, enfin il faut y aller, quoi, parce que aussi quand on parle anglais, on a l'impression que tout le monde parle anglais partout, en fait, mais c'est pas vrai. Enfin, ici à Mexico, personne. Ben non. Dans les lieux touristiques, si, les gens parlent anglais, bien sûr. Mais pas partout. Tous les Mexicains ne parlent pas anglais. Et je pense que c'est une bonne chose aussi, tu vois. Enfin, moi, comme bon français, j'apprécie quand un étranger te dit bonjour avant de te dire excuse-moi, je parle pas français. C'est pareil ici. Il faut essayer, avec trois mots d'espagnol, de dire bonjour, excuse-moi, je parle pas espagnol, est-ce qu'on peut switcher à l'anglais? Donc, un Gérardo qui me soutient, qui m'aide beaucoup, qui m'apporte un réseau familial, un réseau aussi de personnes qu'il connaît via son université, il m'apporte quand même beaucoup de choses, mais de mon côté, il faut que je connaisse la ville, une ville magnifique, chargée de couleurs, d'odeurs, de sons aussi.
De klaxons.
De klaxons, de musique qui te réveille à 7 heures du matin. Il y a un petit pick-up qui passe tout le temps et qui dit je t'achète ton matelas, ton réfrigérateur. Machin. Et c'est une voix comme ça, préenregistrée, et qui passe partout dans la ville tout le temps. Donc, c'est horrible. C'est comme tout, tu t'y fais, en fait. Au début, le premier jour, où les premiers jours, tu te dis, mais c'est quoi, enfin, ce son, ou les voisins qui mettent la musique à fond. Enfin, tu changes vraiment de culture, de lieu, et c'est bien de découvrir ça. Les premiers jours ont vraiment été découvertes, autant au niveau de la ville, de l'espagnol, des relations ici de Gerardo, et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Tu te sens pas comme en sauter au-dessus d'un ravin, au-dessus du vide. Enfin, tu vois, t'es toujours soutenu un petit peu, ou t'as toujours une porte de sortie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut dire aux gens. Enfin, il faut pas avoir peur de faire quelque chose, soit par amour, soit par envie professionnelle, par passion, parce que même si tu te ramasses, même si tu tombes, t'as toujours, tu peux retourner chez, je sais pas, peut-être tu peux pas, t'as toujours une quelqu'un pour te rattraper, ou t'as toujours un pays qui sera là pour te réconforter. J'ai grandi dans les années 90, début 2000, et j'ai jamais eu l'envie de me marier, moi, personnellement. Parce que je pouvais pas, non? Avec cette idée que, de toute façon, t'es homosexuel, tu peux pas te marier. Donc ça a jamais vraiment été un rêve pour moi depuis petit, comme beaucoup de gens peuvent avoir, de commencer à planifier ton mariage depuis tout petit. Quelle robe ou quel costume tu vas porter, combien d'invités, est-ce que cette personne tu vas l'inviter ou pas. C'est vraiment quelque chose à laquelle j'avais jamais pensé, mais c'est quelque chose que je voyais faisait plaisir à Gerardo. C'est quelque chose dont il m'avait parlé, de l'engagement, de vraiment s'investir dans une relation, de le next step, en fait. Pour moi, changer de pays, pour une personne, c'était l'engagement suprême.
Enfin, oui, c'était pour déjà moi, une belle preuve d'amour.
Voilà, enfin, donc il n'y avait pas plus haut que ça. Après le mariage, oui. Après le mariage. Donc, je ne sais pas si je vais te vendre le rêve que tu espérais, mais. Mais en 2019, ouais, on est allé en Baja California, à Los Cabos, et je l'ai demandé en mariage.
Donc c'est en plus toi qui as fait la demande.
Ouais, c'est moi qui ai fait la demande. C'est moi qui ai fait
la demande.
Alors,
comment t'as fait ça?
je suis un grand anxieux et stressé de la vie, donc je savais pas. Je fais, oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir faire passer, ben, que ça lui fasse plaisir à lui, quelque chose qui nous ressemble. C'est un stress quand même. C'est pour la personne qui prend l'initiative de demander la main de l'autre. C'est beaucoup de pression. Mais au début, je m'étais dit, allez, dans un restaurant avec une super vue, un super coucher de soleil, voilà. Je pense que c'est bien, tu vois, au Mexique en plus, qui est le pays où l'on vit. Voilà, donc j'avais organisé ça, sauf que le jour de la demande, qui en plus est le 11 novembre, parce que ça, c'était un petit peu le détail, parce que tous les jours, on essaye à 11h11 de s'envoyer un petit message, tu vois. Et on se voit juste 11h11, mais ça veut dire...
Ah, c'est trop mignon.
Je pense à toi, tu sais. On peut être au travail, on peut être...
Encore maintenant.
Après, tu vois, c'est un petit moment magique, en fait, de la journée, le 11-11. Donc, je m'étais dit, allez, le 11 novembre, ce sera la date de la demande. Et voilà, dans un restaurant sympa avec vue sur le coucher de soleil, dans la mer. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'il faisait un temps horrible. On voyait pas le soleil, on voyait que des nuages. Donc du coup, il pleuvait, au lieu de manger dehors, un petit peu au bord de la plage, ils nous avaient tous rassemblés à l'intérieur du restaurant, qui était une toute petite pièce. Donc pas du tout intime, tu mangeais presque sur la table de ton voisin. C'est pas pour être méchant, mais il n'y avait que des touristes américains, États-Unis, ouais. États-Uniens, comme on aime dire, parce qu'américains, on l'est aussi au Mexique. Ça, c'est un point que Gerardo me dit tout le temps. Ah, mais ici, on est aussi américains.
C'est vrai.
Ouais. Donc, que des États-Uniens autour de nous qui parlaient assez fort. Ah, je dis, je crois que c'est pas le moment. Et Gerardo me disait, si tu tentes de faire un truc ici, ça va pas le faire.
Ah oui, donc il le sentait quand même.
Il le sentait, ouais. Je pense qu'il sentait le stress. et au final, ça s'est fait au retour dans la chambre, en fait. Voilà, tranquillement. Je lui ai offert une montre, une jolie montre. Voilà. Donc ça, c'était la demande super simple au final que tous les deux, parce que. Ouais, les conditions n'étaient pas rassemblées pour que ça se passe comme je l'avais prévu. Ouais. Voilà.
Donc du coup, la demande, elle se fait quoi, en 2019?
Elle se fait fin 2019, okay. Le 11 novembre 2019.
Donc 2 ans après ton arrivée, finalement?
Exactement, ouais, 2 ans après mon arrivée. Et en décembre, j'ai la chance de pouvoir rentrer en France. Donc on l'annonce à la famille, toute la famille est super contente. Moi, j'avais déjà une date en tête, c'était le 18 avril 2020. Pas parce que le 18 avril, mais parce que ma mère est en vacances cette semaine-là et elle pouvait venir au Mexique. Donc, j'en ai déjà parlé à mes parents, à ma mère. Ma mère me dit, on peut venir cette semaine-là. Et je dis, ok, bon, ce sera cette semaine-là. On va organiser un petit mariage. Mes parents viennent, mes frères viennent. Il faut savoir aussi que j'ai un frère qui vit en France, mais un autre qui vit en Indonésie, qui a fait comme moi un VIE et qui est resté là-bas. Tout le monde prend ses billets d'avion, donc... Mon frère Antoine d'Indonésie, mon frère Guillaume de France avec sa famille, mes parents, ma cousine, enfin tu vois, tout se met en place, vraiment très, très rapidement. Au mois de janvier 2020, je commence les démarches administratives pour que tout soit prêt en avril 2020. Et bon, comme on le sait tous, le 13 ou le 16 mars, tout ferme et le mariage tombe à l'eau. Je parle à la juge qui allait nous marier, elle me dit, écoute... là, on va fermer. Vraiment, l'administratif, si tout a été fermé durant vraiment des mois et des mois, c'était assez compliqué de faire ton dossier parce que traduction, parce que les documents français sont valables seulement 3 mois. Si on ne fait pas maintenant, c'est maintenant ou jamais, en gros. Ça, c'était le lundi ou le mardi. Ils me disent, on ferme le vendredi soir. Donc, on te laisse mercredi, jeudi ou vendredi pour venir. Et on a dit, OK, on y va vendredi. Mais seulement être en petit comité, donc seulement vous deux.
Et alors, comment, donc du coup, ça se passe comment, alors?
Super à l'arrache.
Finalement, c'est que un mois avant le D-Day prévu, quoi.
Ouais, seulement un mois avant. Mais à l'arrache quand même, parce que on l'a fait. Moi, je travaillais ce jour-là. En plus, je travaillais depuis chez moi, puisque on avait été renvoyé en télétravail. Déjà, et entre deux et trois, quoi, durant ma pause déj, on a pris un Uber, on a filé voir le juge, il nous a mariés et on est rentré manger. Voilà, mariés avec le petit document, ouais. Mais c'était bien, le soir même, on s'est fait un resto, un de nos restos préférés ici, et les restaurateurs, le chef est sorti pour nous dire. Qu'ils allaient fermer aussi, qu'ils ne savaient pas quand qu'ils allaient rouvrir. Donc, c'était. On avait l'impression de se dire, allez, ça au moins c'est fait. Maintenant, on sait qu'on va rester enfermé durant plusieurs semaines. Et on sera mariés. On va voir si on va pouvoir résister au confinement, à la quarantaine. La vie est belle aujourd'hui. La vie est belle aujourd'hui après avoir été difficile parce que Gerardo travaille dans le théâtre, dans l'art. Les théâtres, c'est la première chose qui a fermé et c'est la dernière chose qui a réouvert. Là, ça fait seulement quelques mois en 2022 que le théâtre a vraiment repris. Donc, ça a été des mois difficiles, mais vraiment, cette année, on est les plus heureux du monde. Le travail revient. On a pu en avril retourner en France après 2 ans pour découvrir aussi 2 petits neveux supplémentaires qui sont nés en 2021. Pour moi aussi, la résidence permanente au Mexique cette fois en 2022 a été approuvée. Donc, ouais, non, on est heureux en ce moment. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup, mais on est heureux avec toujours des projets de voyage et s'installer toujours plus. J'ai l'impression que maintenant, le Mexique est vraiment devenu ma seconde maison, enfin, ma troisième maison. C'est là où je suis, c'est là où je vais rester, je pense, pendant un moment. On n'a pas de projet de partir en France, mais je sais que c'est quelque chose qui ferait plaisir à Gerardo, qui me ferait plaisir aussi, de vivre en France. Parce que le monde du théâtre est vachement plus dynamique en France. Et il y a plein de festivals, il y a énormément de théâtre. Enfin, c'est une chance qu'on a justement en France d'avoir tout cet accès à la culture. Et c'est quelque chose qui l'attire beaucoup, ouais. Ouais. Mais pour l'instant, moi, je m'épanouis complètement dans mon travail. J'ai réussi à trouver un travail au bout de 6-7 mois, après être arrivé au Mexique, donc juillet. Et vraiment, je suis super content. J'ai rencontré des collègues extra, un environnement laboral qui m'a accepté pareil comme je suis, vraiment sans discrimination. J'ai jamais eu à mentir ou à dire ma femme ou ma compagne ou, tu sais, ou ma petite amie. Ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont dans toutes mes démarches. Non, ça c'est vraiment agréable, et c'est pareil, quelque chose qui me faisait assez... Ça me faisait pas peur, parce qu'au fil des années, vraiment, j'ai pu m'assumer comme j'étais moi. Et au fil des années, tu te dis, mais de toute façon, tu me prends comme je suis ou tu me prends pas. Enfin, ça, c'est comme ça. Tu ne laisses plus le choix aux gens, en fait. Tu ne les laisses plus t'impacter ou prendre le contrôle comme avant.
Au final, c'est un long chemin qui a amené Mathieu à Mexico et qui l'a mené à partager la vie de Gerardo. 10 ans après avoir quitté la France et un peu plus de 10 ans après avoir quitté sa Picardie natale, y a-t-il une chose que Mathieu ferait différemment ?
J'ai l'impression que tout arrive pour une raison. Même les décisions que je pensais avoir prises qui n'étaient pas les meilleures ou les plus optimales, dans mon esprit d'économiste, par exemple, d'aller dans les meilleures écoles, les meilleurs prépas, au final, d'avoir fait les écoles, les universités où je suis allé, m'ont mené où je suis aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'important, au final. Tu auras toujours des opportunités dans ta vie de rester, de partir, de faire telle ou telle chose. Il faut juste y aller. Il faut juste prendre cette opportunité comme elle vient et foncer. Et ça te mènera dans... Je pense peut-être pas où tu espérais, parce que moi je rêvais des États-Unis, et au final je suis pas très loin. Enfin, je suis à à 2 heures d'avion du Texas, donc il faut y aller. Il faut pas avoir de regrets. Il faut essayer. Et comme conseil, je donnerais juste d'avoir peut-être plus confiance en toi, mais ça, c'est quelque chose qui vient aussi avec l'âge, je pense, et l'expérience. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un « Aie confiance en toi », comme ça, non ? C'est quelque chose qui vient avec le temps.
Quand j'ai commencé à parler avec Mathieu de son histoire, de son parcours, j'avais l'impression qu'en fait, il avait fui la France et que fuir la France lui avait permis de devenir qui il était. Mais finalement... Cette fuite en avant, que lui-même définissait ainsi au début de notre conversation, pourrait n'être que temporaire. L'impression que j'ai, c'est que Mathieu, il est parti de la France pour se trouver aussi, pour s'affirmer, pour savoir qui il était, et que son parcours de vie, de découverte de lui-même, ne s'arrêtera peut-être pas au Mexique.
Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais je pense que c'est... C'est exactement ça, en fait. Je me sens beaucoup plus armé aujourd'hui, fort, avec beaucoup plus de confiance en moi pour revenir en France. Et c'est une chose assez étrange aussi qui se passe quand tu es à l'étranger, c'est que tu te sens, au fil des ans, de plus en plus français. Non ? Au début, les premiers mois, tu te dis « Ah non, mais je veux pas être avec des Français, il faut que je vive comme un Australien, comme un Mexicain. » Et finalement, tu es toujours attaché à la France. Tu as toujours... une sorte de fil qui te sort du nombril et qui te rattache à ton pays, que ce soit culturellement, que ce soit la langue, que ce soit ta manière d'être. Ouais, et je sens ce lien de plus en plus fort et j'ai envie de connaître mieux mon pays. Mais tu sais, la France aujourd'hui devient aussi un fantasme. Toute la partie négative que tu peux accumuler, que tu peux aussi expérimenter lors de ton adolescence, lors de tes premières années professionnelles en France, tout ça se dissipe avec le temps et tu ne gardes que le bon. Et ce qui est assez bien, non? Parce que je pourrais te parler de la France où j'adore partager mon amour de la France avec un étranger, mais j'ai aussi peur le jour où je m'impatrie. Je retourne en France. J'aurais peur de la chute, du retour à la réalité. Je pense qu'il faut y aller. C'est pareil. Il faut le jour où l'on prendra cette décision, si on la prend, il faudra y aller sans trop se poser de questions et foncer quoi. Comme on l'a fait pour l'Australie, comme on l'a fait pour le Mexique.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Mathieu de m'avoir contacté pour partager son histoire. Et je vous dis un grand merci à vous pour votre écoute attentive jusqu'au bout. Si vous souhaitez échanger avec Mathieu, faire part de vos commentaires, de vos retours, nous raconter un peu tout ce que cela vous évoque, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est un peu partout. Vous pouvez chercher French Expat, le podcast sur Instagram, Facebook, Twitter et même LinkedIn. Tradition oblige, où partons-nous la semaine prochaine? Je vous propose de tendre l'oreille.
L'état d'esprit des Français et en France était tellement différent de l'état d'esprit ici, en fait, que ça m'a chamboulé. Ici, c'était tu peux tout faire,
très positif,
tu, ouais, voilà. Tu as envie de faire ça, tu peux le faire. Là-bas, c'était mais Delphine, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas trouver un travail, Delphine? Tu crois que tu vas trouver une crèche, Delphine? Tu crois que tu vas trouver un appartement comme ça? Alors moi, bien sûr, je me disais, bah ouais, avec ma petite vie américaine, bah oui, pourquoi pas. Et c'est vrai que très vite, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça l'était ici. Mais j'avais vraiment du mal à apprécier la vie qu'on avait en France. Donc on était près de la famille, mais j'avais l'impression qu'on avait tout quitté ici. Tous nos amis, tout notre style de vie. Et je me suis dit, en fait, je me vois pas faire ma vie là-bas très longtemps. Donc... très rapidement, on a pris nos billets, on est reparti. Ça me peinait en fait de les voir être loin de leurs grands-parents, de pas connaître leurs cousins, etc. Donc d'une manière, notre communauté française ici, c'est leurs cousins éloignés français qui du coup ne voient pas. Ça me réchauffe le cœur de les voir avec d'autres Français et de ouais. C'est un peu la famille loin de la famille en fait.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une belle fin de semaine et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. T'en fais confiance.
Exactement, ouais. Donc, donc voilà.
Qu'est-ce qui se passe en bas?
En bas, en fait, j'ai une grande route, une grande avenue qui passe juste en bas de chez moi et... les Mexicains sont très, très peu patients au volant. Donc tout de suite, on entend les klaxons.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.